Le journal Asia Chipoukou. Bienvenue dans cette édition du journal en français. Voici tout de suite les titres. Incendie à bord du Negué Alali, une embarcation en bois motorisé de 40 tonnes. Ce bateau faisait le trajet Ouvira-Kalemi. Bilan, une centaine de disparus et 18 rescapés. Plus d'une centaine de détenus se sont évadés hier de la prison centrale de Bukavu. La plupart de ces évadés sont des militaires. Aux dernières nouvelles, 20 d'entre eux ont été retrouvés et remis en prison. Un nouveau cas de poliomyélite détecté à Kinzambwete dans le Bas-Congo. Information livrée par l'OMS et le médecin chef de zone de santé de Sekebanza après une visite dans cette cité. La position de la RDC à cheval sur l'équateur qui traverse la ville de Mbandaka est d'un avantage pour le pays. Il va pleuvoir toute l'année avec comme conséquence la stabilisation du débit du fleuve Congo ainsi que de nouvelles floraisons. Explication d'un chercheur de l'ISP Mbandaka à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement célébrée ce lundi 5 juin 2006. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons de l'apprendre, un accident de navigation s'est produit jeudi dernier au large de Wimbi Port, le long du lac Tanganyika. C'est sur le trajet Ouvira-Kalemi. Un incendie s'est déclaré à bord du Negué Alali, une embarcation en bois motorisé de 40 tonnes. Bilan, une centaine de disparus et 18 rescapés. L'embarcation ainsi que la cargaison de marchandises ont été complètement calcinées. Récit des faits avec Expédite Mwamba Mubi.
Sur un peu plus de 100 passagers, seules 18 personnes ont pu se sauver de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi dernier à bord de l'embarcation Negué Alali. Le Negué Alali, traduisait l'oiseau qui ne dort jamais, venait d'appareiller au large de Wimbi Port, une localité riveraine du lac Tanganyika, à 60 km de Kalemi et 200 km d'Ouvira. C'est à l'allumage du moteur que le feu s'est déclaré. Récit des faits avec l'un des rescapés, son nom Bahati. Cette jeune femme a été jointe par radio depuis la localité de Kabimba, 60 km de Kalemi, où les rescapés sont arrivés samedi. Je m'appelle Bahati. J'étais à bord de l'embarcation. Nous avons fait escale à Wimbi Port. Nous avons été arrêtés par des agents de service de l'État et des militaires. Les militaires nous ont battus. Moi, ils m'ont frappé sur l'œil. Mon œil est crevé. 4 jours après, ils nous ont laissés partir. Au large de Wimbi Port, l'embarcation a pris feu. Les passagers ont été brûlés. Moi, j'ai été sauvé. J'allais à Kalemi, à Kibiji. Selon plusieurs témoignages, l'embarcation était chargée au départ de Ouvira, en plus de la centaine de passagers, de plusieurs tonnes de marchandises, dont des fûts d'essence et des bidons de pétrole. Expédie Mwamba Mubi, Kalemi, Radio Okapi.
Un autre incident, mais cette fois-ci à Ngandajika, localité située à 90 km de Mbujimayi, au Kasaï oriental. Un enfant est mort et 6 autres personnes blessées suite à l'écroulement du mur d'un stade. Ce mur vétuste est tombé au moment de l'atterrissage d'un hélicoptère de la MONUC apportant du matériel électoral dans la cité. La société civile de Ngandashika demande qu'une enquête soit diligentée, ceci afin d'apporter la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Le point avec Chris Mukand.
D'après le président de la société civile coordination de Ngandajika, M. l'abbé Vincent Lokoji, l'hélicoptère de la MONUC allait se poser au stade quand les habitants curieux ont accouru. Scène très habituelle dans cette cité. Face au souffle généré par le rotor de l'engin, les gens ont trouvé abri derrière le mur de clôture du terrain. Cette architecture vétuste et branlante, ne pouvant plus résister au coup de vent, a cédé et une partie est tombée sur ceux qui s'y étaient réfugiés. Bilan, un garçon de 7 ans meurt sur le coup et 6 autres personnes grièvement blessées. La tension est montée d'un cran dans la cité. La population menaçait de saboter le matériel électoral sitôt qu'il serait débarqué de l'hélicoptère. Cette atmosphère obligera donc l'équipage à repartir sur Kananga avec sa cargaison à bord. Les commentaires vont dans tous les sens à propos de cet accident. Depuis lors, des invectives sont orientées vers les agents de la CEI. Le président de la société civile de Ngandajika demande à ce que la MONUC et la CEI envoient sur les lieux le plus rapidement possible une mission d'enquête. Ceci afin de rassurer la population et restaurer sa confiance. Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Sud Kivu à présent, plus d'une centaine de détenus se sont évadés hier de la prison centrale de Bukavu. La plupart de ces évadés sont des militaires. Il s'agit notamment des malfaiteurs récemment arrêtés lors des opérations de sécurisation de la ville de Bukavu. Ils ont réussi à ligoter 4 militaires et le surveillant en chef avant de s'enfuir. Ce matin, 20 d'entre eux ont été retrouvés et remis en prison. Le point avec Didas Namujimbo.
Selon les directeurs de la prison centrale de Bukavu, Théophile Bahiziré, 192 prisonniers se sont échappés hier soir sur les 338 que compte la prison. L'incident s'est produit au moment de la fermeture des cellules. C'est en faisant rentrer les prisonniers dans leurs cellules que ces derniers ont maîtrisé les quatre militaires qui surveillent la prison et les ont ligotés. Ils ont ensuite frappé et ligoté les surveillants en chef et enfin maîtrisé le seul policier qui gardait l'entrée de la prison. Selon des sources proches de l'auditorat militaire de garnison de Bukavu, un prisonnier a été abattu et un autre grièvement blessé alors qu'il tentait de s'échapper. Tous deux des militaires. Selon la même source, sur les 192 personnes qui se sont échappées, 171 sont des militaires. Tous des éléments dangereux récemment arrêtés, soit lors des opérations de sécurisation de Bukavu, soit dans le cadre de l'assassinat l'année dernière de l'activiste des droits de l'homme Pascal Kabungulu. A noter qu'habituellement, 14 militaires et policiers surveillent la prison. Dimanche soir, il n'était que 5. Didas Namujim Bukavu, Radio Okapi.
Et puis cette demande de l'Observatoire national des droits de l'homme, l'ONDH, exige que justice soit faite sur le chef de guerre Mutanga Gédéon. Le rapporteur de cette institution a signifié à Radio Okapi que l'ONDH se félicite du fait que Gédéon a déposé les armes et que le secteur anciennement occupé par ces hommes est en paix aujourd'hui. Maître Florent Kabungo, rapporteur de l'ONDH, au micro de Denise Mahéro.
Gédéon étant arrêté, nous allons maintenant savoir quelle est l'ampleur des exactions qu'il a commises, qui l'ont armé, qui sont ses complices matériels et intellectuels. Nous avons toujours souhaité que celui qui commet des exactions soit arrêté parce que l'ONDH lutte contre l'impunité et il est là pour le respect des droits de l'homme. Et au vu de tout ce qu'il a fait, c'est une atteinte massive aux droits de l'homme. Et nous avons tous souhaité son arrestation et nous applaudissons maintenant qu'il s'est rendu. L'ONDH, s'il avait les moyens de sa politique, l'ONDH devait descendre depuis tout ce temps là où Gédéon régnait à maître pour faire des enquêtes. Et l'ONDH, d'après ses attributions, devait se constituer même partie civile et tenter même des actions contre les violateurs des droits de l'homme.
19h07 à l'est du pays, une heure de moins à Kinshasa et dans les Bas-Congo. La suite du journal avec vous, Adia Chipoukou.
Un nouveau cas de polio virus sauvage vient d'être signalé à Kinzamwete, à 60 km de Matadi, dans le Bas-Congo. Une équipe sanitaire composée du représentant de l'OMS dans le Bas-Congo et du médecin chef de zone de santé de Sekebanza ont effectué une visite dans cette cité où ils ont rencontré le malade. Selon le docteur Marie-Claire Diwampoveza de l'OMS Bas-Congo, des efforts doivent être fournis pour que la polio ne se propage pas. Correspondance de Matadi avec Dani Kindanzita.
Après celui des bombes au mois de mai dernier, un nouveau cas de poliovirus sauvage venait d'être signalé à 60 km de cette ville vendredi dernier. Il s'agit d'un garçon de 24 mois dont les membres inférieurs droits sont atteints de paralysie. D'après le docteur Marie-Claire Diwampovesa de l'OMS Bas-Congo, le prélèvement effectué au mois d'avril dernier, dont l'échantillon était envoyé à Genève pour analyse, a confirmé cette maladie. Pour ce nouveau cas, le docteur Marie-Claire Diwampovesa demande une surveillance et une recherche active d'autres cas qu'on n'a pas encore découverts dans la communauté. Pour sa part, le docteur Luzolo, médecin-chef des zones de santé de Sekebanza, plaide pour la sensibilisation des parents. Ceux-ci doivent, selon lui, se sentir concernés par la vaccination de leurs enfants. Signalons qu'une campagne de vaccination contre la poliomyélite est prévue du 9 au 11 juin, dont le lancement officiel se fera à Boma dans le Bas-Congo. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Grève des médecins dans les hôpitaux publics. Quatrième semaine après son début, les grévistes radicalisent davantage leur mouvement. Les médecins ont décidé de retenir depuis ce lundi matin un seul hôpital public pour accueillir toutes les urgences de la ville, alors qu'au début de leur mouvement, ils en désignaient deux par jour. Face à cette situation, le ministre de la Santé se veut rassurant. Émile Bongeli promet de décanter la situation cette semaine. On l'écoute.
Le gouvernement et du moins les ministères concernés par les dossiers, et tous ces ministères sont unanimes pour reconnaître que les revendications des médecins sont fondées et tout a été mis en œuvre pour qu'on trouve très rapidement une solution à ce problème. Dans les tout prochains jours, on aura décanté entièrement la situation.
C'est-à-dire cette semaine?
Tout à fait, d'autant plus que les médecins eux-mêmes ne sont pas de mauvaise foi, n'est-ce pas? Ils sont prêts à reprendre dès qu'ils ont des signes positifs. Le processus est déjà enclenché. au niveau de la direction de la paix, donc du ministère du budget. Il y a des erreurs qu'il faut corriger et cela se fera certainement au courant des heures qui viennent.
Des propos recueillis par Mimi Ngumba Mulongo. Toujours dans le registre social, pas de remise et reprise ce lundi à l'Office national de transport ONATRA. Le comité de gestion sortant et le nouveau comité ne se sont pas présentés à cette cérémonie. Ce rendez-vous manqué a provoqué des affrontements opposant d'un côté ceux qui soutiennent l'ancien comité et de l'autre les partisans du nouveau comité. René Capita revient sur les circonstances qui ont provoqué cette manifestation.
Pour certains agents de l'ONATRA, le ministre des Transports ne peut pas suspendre le comité de gestion sans qu'il n'y ait des enquêtes au préalable.
Ce n'est pas au ministre des Transports de pouvoir au moins limoger le comité et puis le remplacer. On doit réunir tous les paramètres avant de limoger qui que ce soit. Nous ne nous soutenons pas puisque nous sommes de la même obédience. Non, il faudrait que le gouvernement en place puisse diligenter peut-être une enquête s'il y a une gestion.
De son côté, Célestin Vounabandi, ministre du portefeuille, estime que la décision de son homologue de transport était prise de manière unilatérale. Pour ce dernier, il ne peut pas y avoir remise et reprise entre les deux comités. Pour la majorité des agents de l'ONATRA, la position du ministre du portefeuille dénote du manque de cohésion au sein du gouvernement. Écoutons Tadila Makanda, président national de la délégation syndicale de l'ONATRA.
Le ministre du portefeuille aurait dû faire preuve d'une certaine discrétion dans sa façon d'aborder les problèmes. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on signe une lettre le 3 juin adressée au chef de l'État. Et le même 3 juin, un des membres du comité de gestion suspendu fasse la ronde des installations ONATRA en train de vulgariser le contenu de cette lettre. Donc nous pensons là qu'il y a le secret des délibérations du gouvernement qui est totalement mis dans la rue. Et ça, ce n'est pas de nature à renforcer la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale.
Toujours selon Tadila Makanda, les agents de l'ONATRA ne reprendront le travail qu'après remise et reprise entre l'ancien et le nouveau comité de gestion.
Kinshasa encore, un nouveau lot de bus remis ce matin à la société de transport urbain STUC. Ce premier lot constitué de 111 bus a été remis à cette société par le vice-président de la République, Yerodia Abdoulaye Ndombassi. D'après le ministre des Transports, ces véhicules ont été acquis par le gouvernement congolais grâce à un crédit accordé par l'Inde. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Kinbembe Mazunga, promet pour sa part d'apporter son assistance pour faciliter la mise en circulation de ces bus. On l'écoute au micro de Axel Goncho.
Les actions concrètes posées ainsi par la ville de Kinshasa à ce stade portent notamment sur, primo, la signature le 23 mai dernier d'un contrat de concession du service de transport en commun par autobus qui crée en fait les premières conditions d'une exploitation aisée et satisfaisante. Deuxièmement, l'approbation d'un cahier de charges qui définit clairement les obligations de la nouvelle société de transport urbain. Troisièmement, les aménagements progressifs de la voirie urbaine en référence à la politique locale dans ces domaines. Quatrièmement, les travaux d'élargissement de chaussée. Cinquièmement, l'aménagement de carrefour. Sixièmement, la création d'un partenariat quasi permanent concernant les dispositifs d'aide à la création effective de la STU comme société par action à responsabilité limitée.
La position de la RDC à cheval sur l'Équateur qui traverse la ville de Mbandaka est d'un avantage pour le pays. Il va pleuvoir toute l'année avec comme conséquence la stabilisation du débit du fleuve Congo ainsi qu'une nouvelle floraison. C'est ce qu'explique le chef des travaux Jean-Pierre Molinga de la faculté de physique technologie de l'ISP Mbandaka. Il s'est exprimé à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement célébrée ce lundi 5 juin 2006. On l'écoute au micro de Claude Bousset.
C'est là un avantage énorme et qu'à tout moment on peut planter. Donc on peut pêcher à tout moment, durant toute l'année. C'est un scandale parce que au fur et à mesure qu'on avance en déboisement, juste avant d'arriver à la fin, là où j'étais, tout reprend comme si on n'avait rien coupé. Vous voyez vraiment, c'est un scandale naturel. Nous, actuellement avec la mondialisation, nous ne pouvons pas nous limiter par nous-mêmes. Nous pouvons profiter de l'expérience extérieure pour nous développer dans ce domaine-là. Avec tout cela, je lance un appel à tous ceux qui s'intéressent au développement de la biodiversité de venir mener des investigations ici chez nous à l'Équateur. Ils vont découvrir beaucoup de réalités. Prenons le cas, vous voyez le cas de Bonobo.
Un seul titre en page internationale, le président américain George W. Bush a eu ce lundi matin des entretiens sur le Darfour, le nucléaire iranien et le sida avec son homologue de la République du Congo et actuel président en exercice de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso. C'est ce qu'ont indiqué les deux hommes à l'issue d'entretiens dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. M. Bush a affirmé l'engagement commun partagé avec M. Sassou Nguesso pour mettre fin au génocide au Darfour. Il a également salué le rôle de son homologue dans l'accord de paix signé le 5 mai entre le gouvernement soudanais et la faction majoritaire du principal groupe rebelle au Darfour, ainsi que ses efforts pour obtenir l'envoi le plus vite possible d'une mission de paix de l'ONU dans cette province de l'ouest du Soudan.